témoin.
C'est une invention fabuleuse, la valse, c'est vraiment une invention.
C'est cette idée de la valse comme une musique, mais aussi comme une danse. Et pas comme une danse qu'on oublierait pour faire simplement de la musique comme ça.
Les derviches tourneurs, par exemple, ont exactement la même expérience que les valseurs. Donc le trois temps invente un état de transe particulier.
Parlez de moi, à vos amours, à vos amis.
Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonsoir à tous, à toutes, ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, nous sommes ensemble en direct pour une émission libre de toutes les provenances, de tous les tempi, de toutes les couleurs, de toutes les cadences. Une émission délibérément placée sous le signe du 3-4. Une heure de radio sur la musique, en musique. C'est la série musicale. C'est bien une valse que nous écoutons, ici en l'occurrence la valse brillante et de Verdi retouchée avec brio par Nino Rota, celle de la scène finale du Guépard, et je ne suis pas Claudia Cardinal, mais vous l'avez reconnue évidemment cette valse très aisément ici, de la même manière que sans doute vous avez reconnu le Danube bleu en ouverture de cette émission, qui clôt chaque année le fameux concert du Nouvel An de Vienne. Mais savez-vous que des valses, vous en écoutez constamment, parfois même, je dirais même très souvent, sans savoir que ce sont des valses. Les valses, ce sont évidemment des danses, hein, c'est ce genre musical très codifié, très identifié, mais c'est aussi, c'est surtout un rythme, le fameux 3-4, une mesure à trois temps qui s'est imposée à peu près à la fin du XVIIIe siècle, sans doute à Vienne. Et alors que c'est le tempo binaire qui s'est imposé partout dans la musique moderne, la valse n'est pas morte. Et non, loin de là, il suffit de tendre l'oreille pour la reconnaître. Chez les Beatles, chez Billie Eilish, chez Edith Piaf, chez Alicia Keys, les musiciens contemporains tous ont eu recours à cette matrice rythmique qui est aussi entraînante qu'elle peut être élégiaque. Pour notre plus grand bonheur, accordez-moi cette valse tour d'horizon, comme toujours, absolument pas exhaustif, mais toujours très subjectif, de ce que peut ce tempo de la valse. C'est la série musicale sur France Culture.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing.
Alléluia de Leonard Cohen, sa voix rayée et son orchestration très gospel et son tempo lent en 6-8 qui est presque une valse, qui en tout cas à la croisée de la tradition pure de la valse et des premiers gospel qui sont toute une tradition de rythme ternaire et qui vont enfanter la musique rock. Une valse rapide qui a été reprise des centaines de fois. On aime beaucoup évidemment la reprise de Jeff Buckley, on vous l'a souvent dit, qui a été reprise à la fois en tempo lent, en tempo rapide et souvent transposée justement en 3-4, c'est-à-dire avec 3 temps par mesure. Ce tempo 3-4, c'est bien celui de la valse. Alors ce tempo, il a été formalisé, identifié et en tout cas baptisé à Vienne, au tournant du 18e et du 19e siècle, sans qu'on sache vraiment d'où il vient. Ce qui est certain, c'est que le mot valse, lui, vient de Walzer, ce qui signifie en allemand littéralement tourner en rond, ce qui veut bien dire que cette matrice rythmique du 3-4 de la valse vient très clairement de ce que l'on entendait faire dessus, c'est-à-dire tout simplement danser. Mais d'où vient-elle cette valse? Des danses traditionnelles populaires allemandes, de la Bavière, du Tyrol, qui étaient toutes des rythmes sur des rythmes ternaires? Est-ce qu'elle vient plutôt des danses de la cour de France, qui avait un soft power immense à l'époque, et où on dansait beaucoup une autre danse à trois temps? Le menuet, peut-être, mais le menuet, comme son nom l'indique, était destiné à faire des pas très menus, tout petits, extrêmement calmes, avec un tempo qui était plutôt beaucoup plus lent que celui de la valse. C'était bien un 3-4, mais un 3-4 très peu prononcé et absolument pas écrit pour entraîner, plutôt pour finalement calmer les ardeurs de la cour de France. Est-ce que cette valse, elle ne viendrait pas plutôt de la volte provençale, une danse incroyablement sauvage que l'on pratiquait en France à la Renaissance, elle aussi en trois temps, et qui consistait à faire voltiger sa partenaire pour laisser apparaître les jambes sous la jupe? En tout cas, au 18e et au 17e siècle, déjà chez Mozart, chez Haydn, chez Beethoven, il y a des premières valses qui sont encore de forme très incertaine, mais peu à peu, l'auditeur averti pourra identifier le rythme caractéristique de cette danse, un accent sur la basse dans le premier temps, suivi de deux accords. Ce qu'on sait, ce dont on est sûr, c'est que c'est bien à Vienne, au siècle suivant, qu'une danse qu'on appelait l'allemande, elle-même dérivée des Ländler, devient la valse moderne, avec deux personnages clés dans son histoire, Johann Strauss et son ami Joseph Lanner, qui vont formaliser la valse telle qu'on la connaît. Des valses, ils vont en composer des centaines, 200 pour Strauss, près de 300 pour Lanner. Des valses qu'ils vont faire exécuter en masse grâce à deux orchestres qu'ils créent et qui vont faire danser tout Vienne, puis toute l'Europe.
Thank you.
La Dampfe Valse de 1837 de Joseph Lanner, c'est l'une des toutes premières valses publiées avec ce nom de valse qui fait danser la Vienne du 19e siècle. Vienne où on lit beaucoup les souffrances du jeune Werther, le grand livre de Goethe, où il existe une scène de valse qui va finalement faire la pub de cette danse dans toute l'Europe. Et c'est ainsi que la valse va dominer les salons viennois, mais aussi parisiens. Toute une série de compositeurs français comme Offenbach vont aussi se spécialiser dans la valse légère. Mais très vite, la valse, ce rythme-là, en tout cas, va faire son chemin. Et on va la retrouver dans toutes les strates de la société, dans tous les genres de musique possible de la valse légère. Elle devient aussi un genre de musique savante, dans laquelle pas mal de compositeurs vont investir. Par exemple, Weber en Allemagne, mais bien sûr aussi Chopin en France, qui est le premier sans doute à avoir dans ce rythme très entraînant autre chose qu'une matrice érotico-chorégraphique, comme il l'écrit à son éditeur, pour l'amener vers quelque chose de beaucoup plus sentimental. Comme il avait fait par exemple avec les mazurkas de sa Pologne natale, Chopin va se saisir de la valse et il va l'investir d'une certaine manière pour trouver cet équilibre délicat et qu'il aime tant entre musique savante et musique populaire, comme le notait d'ailleurs, près d'un siècle et demi plus tard, un danseur de valse mélomane dans l'émission L'éloge de la valse. C'était en 1985 à la télévision française.
La rencontre avec la valse serait... assez précisément, ça a commencé avec Chopin, en fait, quand j'étais tout petit, et que mon père avait un très beau disque des valses de Chopin, qui était joué par Guiomar Novaes, qui est une grande pianiste brésilienne complètement oubliée, peu connue en France, du moins, de la première moitié du siècle, et qui avait fait des enregistrements merveilleux des valses de Chopin, parce qu'elle jouait ça pas du tout à la façon romantique qu'utilisent généralement les pianistes pour jouer les valses de Chopin, c'est-à-dire avec beaucoup de rubato, de ralenti, d'accélération, etc. Elle jouait ça d'une façon extrêmement régulière, presque comme des valses musettes, comme ça, avec cette main gauche imperturbable qui battait le rythme, comme ça, et avec en même temps beaucoup de finesse dans l'interprétation, mais comme ça, cette limite entre la musique populaire et la musique savante. Et c'est vrai que c'est cette idée de la valse qui m'a tout de suite beaucoup touché et accroché. Donc peut-être la valse comme une musique, mais aussi comme une danse, et pas comme une danse qu'on oublierait pour faire simplement de la musique comme ça.
Thank you. génialissime valse numéro 7 pour piano de Chopin qui instaure ce moment assez important dans l'histoire où la matrice rythmique de la valse va devenir en fait une figure imposée de la musique savante que bien des compositeurs vont investir, bien sûr Liszt, puis évidemment Berlioz, jusqu'à Maurice Ravel avec sa valse démente et délirante qu'on affectionne beaucoup. Mais il n'est pas question dans cette émission de revisiter l'histoire de la valse, mais plutôt de comprendre ce qu'elle permet dans tous ses aspects. Et pendant qu'au XXe siècle, la valse, d'une certaine manière, s'intellectualise dans les salles de concert, donc 19e et 20e siècle, elle va se populariser, notamment en France, en devenant musette. La valse musette, c'est toujours effectivement ce même tempo, 3-4, mais accéléré, qui permet aux danseurs de montrer leur grande souplesse. On va notamment encenser les danseurs qui savent faire la toupie, c'est-à-dire danser en tournant le plus vite possible dans l'espace le plus restreint possible. De ce répertoire d'une simplicité qui n'a d'égal que son efficacité, on reconnaît encore aisément le tempo de la valse, bien sûr, mais ce ne sont plus les belles cordes viennoises qui dominent, mais bien évidemment l'accordéon, le roi incontesté des bals, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui est au moins le passeur de ce rythme de la valse, aussi inoubliable que l'amant de Saint-Jean.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qu'il l'aimait tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
C'est tout à fait le moteur de l'enchaînement, le 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enchaînement s'il n'y a pas le 3 au départ. Bon, c'est tout bêtement le passé, le présent et le futur aussi. C'est la matrice de la mesure du temps, c'est sûr. Alors, les compositions centrées sur le 3 ont cet aspect entraînant, qu'on retrouve effectivement dans la valse.
Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. And whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with a moon on their wings. These are a few of my favorite things. In white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.
La voix merveilleuse de Julie Andrews dans le chef-d'œuvre de Rodgers et Hammerstein du début des années 60. La mélodie du bonheur, The Sound of Music en anglais. Cette chanson est l'un des innombrables exemples de la façon dont le rythme de la valse au milieu du siècle est délibérément investi par des compositeurs de musique populaire dans des chansons qui ne sont plus des valses à proprement parler. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas ni destinées à faire danser des gens en couple et qu'elles ne sont pas non plus des variations autour du thème imposé de la valse, comme dans les valses de la musique savante. Ce sont bien ici des chansons qui sont des valses, mais sans le dire, mais qui utilisent les propriétés inhérentes à ce rythme ternaire en 3-4 pour véhiculer des sensations. Plus précisément, elles mettent à profit le fameux moteur ternaire qu'évoquait à l'instant le producteur de radio, librettiste et musicologue Claude Dufresne, ce fameux moteur ternaire qui réveille, qui donne consciemment ou pas d'ailleurs la sensation justement de la joie, d'un effet d'entraînement. Et Rodgers, qui est sans doute l'un des compositeurs les plus brillants de la musique de Broadway des années 30 à 60, connaît effectivement très bien son affaire, il sait très bien ce qu'il fait dans cette comédie musicale. À ce moment-là, il y a cette jeune nounou qui doit s'occuper de 7 enfants qui ont perdu leur mère, et qui passent de déconvenu en déconvenu, et au beau milieu d'un orage, alors que tous les enfants sont tétanisés, la voilà qui essaye de redonner le moral à ses enfants paniqués en faisant la liste des choses qu'elle aime bien, « My favorite things », et quoi de mieux justement pour rappeler ce sentiment de bien-être, ce sentiment de retour de la joie qu'une valse. L'effet est d'ailleurs immédiat et très efficace puisque cette chanson devient assez vite un standard, à la fois un standard de Broadway mais aussi un standard de jazz. C'est l'un des plus joués. Il a été repris évidemment par John Coltrane, par Sarah Vaughan, en passant par les Supremes qui l'ont chanté comme une chanson de Noël particulièrement gaie et raffermissante. En fait, en choisissant la matrice rythmique de la valse, eh bien, le compositeur inscrit inconsciemment la musique qu'il propose dans une lignée très solide, celle de la gaieté, de l'efficacité et d'une certaine forme d'atemporalité et qui va se révéler salvatrice pour bien des compositeurs mais aussi tout simplement des groupes de rock ou de pop. C'est ce qu'a expérimenté notamment le groupe anglais The Stranglers.
Texture like sun lays me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. With golden brown, every time, just like the last, on her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
The Golden Brown, chef-d'œuvre du groupe anglais The Stranglers. On est en 1982 et oui, quand cette chanson devient immédiatement à sa sortie l'un des plus grands succès de l'année dans les charts britanniques, qui pourtant à l'époque était demandé et dominé très clairement par la scène rock, voire punk. En fait, cette chanson est l'histoire d'un retour complètement surprenant, placé sous le signe de la valse. On est en 81 quand les Stranglers commencent à écrire leur 6e album. Ils ont désespérément besoin d'un hit puisque leurs précédents albums ont été des fours terribles et des échecs commerciaux particulièrement lourds pour leur maison de disques. Pendant tout l'été, les musiciens essaient de répéter. Ils sont plutôt à court d'idées pour trouver justement la chanson qui pourrait être le tube qui attirerait l'attention sur leur nouvel album. Il y a bien plusieurs matrices de mélodies qui tournent, notamment une proposée, une fois n'est pas coutume, par le claviériste du groupe, Dave Greenfield, qui ne compose pourtant pas souvent, mais qui tente d'intégrer en vain une petite ligne mélodique qu'il a en tête à plusieurs chansons et qui se fait recaler systématiquement. Et c'est finalement quand le batteur du groupe, Jet Black, finit par s'intéresser à cette ligne mélodique et à la traiter inconsciemment, assez facilement comme ça, avec un rythme de valse, que tous les autres membres du groupe finissent par y prêter attention. Contre l'avis de leur manager, ils vont décider non seulement de l'enregistrer au clavecin, ce qui la rend un peu atemporelle, mais aussi de la mettre en valeur comme l'un des tubes potentiels de cet album. Leur producteur, le mythique Tony Visconti, considère que la chanson n'a pas, je cite, ce son, batterie noyée dans le reste et basse entraînante dominante en mineur qui fait les hits, mais pourtant il accepte de la promouvoir. Elle va devenir de loin leur titre le plus joué, le plus écouté. On la retrouve notamment sur la bande originale du film Kill Bill, qui lui donnera au début des années 2000 une deuxième vie, et elle va permettre au groupe de connaître une véritable renaissance. En fait, c'est cette valse qui va aussi permettre à l'une des plus grandes chanteuses du début des années 2000 de s'imposer, ce rythme de valse qui va porter chance à une jeune débutante qui s'appelle Alicia Keys. Elle a une très solide formation classique. Elle a signé, parce qu'elle a une très belle voix de R&B, avec plusieurs maisons de disques qui lui imposent tous d'interpréter des chansons qu'elle n'a pas écrites. Ses contrats sont au point mort. Pendant 2 ans, elle écrit pour elle seule, quand soudain lui vient cette ritournelle au piano, Fallen, qui exprime les doutes de la jeune fille qu'elle est face à la relation amoureuse qui la rend alternativement heureuse et complexe, D'où l'idée de cette matrice rythmique et musicale où reviendraient les thèmes de la joie et de la tristesse, de la joie et de la tristesse. Une ritournelle qui va s'incarner dans un rythme de valse, lui aussi assez cousin des rythmes de gospel, culture dont Alicia Keys vient. C'est Falling qui va devenir un immense succès mondial.
I keep on falling.
Les rythmes ternaires, le trois temps par exemple, ou le six temps, sont des danses qui favorisent. Les derviches tourneurs par exemple ont exactement la même expérience que les valseurs. Donc le trois temps invente un état de transe particulier. Le binaire des technos, des rêves partis, etc., ou des danses qui ont précédé, c'est une transe qui vient de la répétition permanente des mouvements, mais qui ne vient pas de ce mouvement de l'oreille interne. Finalement, au niveau physiologique, si vous voulez, ça se situe à des endroits corporels différents.
Captured my soul. Yeah. it. I wish I could caress, caress, caress. Manic depression is a frustrating mess.
Excellent Jimi Hendrix and the Experience, on est en 1967. Et le mythique Jimmy s'autorise sur la deuxième piste de cet album, une valse. Une valse, c'est typiquement le 3-4 au beau milieu d'un genre qui est par nature binaire, c'est-à-dire le rock, le rock. Mais on l'a entendu, Claude Dufresne nous le disait dans l'archive qu'on entendait à l'instant, la valse permet une autre forme de trance, que celle du rock'n'roll pur et dur. Et d'ailleurs, nombreux sont les groupes de rock à en fait utiliser cette matrice rythmique de la valse, souvent pour dire autre chose que ce qu'ils disent habituellement dans leurs chansons. En l'occurrence, ici, Jimi Hendrix parle de manic depression. Est-ce qu'il parle vraiment de dépression ou évidemment du chagrin d'amour? La question est ouverte. Le fait est que souvent, les matrices rythmiques de valse sont présentes, souvent une par album, sur les grands disques des grands groupes de rock, et que souvent, elles occupent une place un peu particulière. Elles sont là pour raconter une certaine forme de nostalgie. Il est à noter par exemple que chez Metallica, on utilise pas mal la valse pour dire quelque chose de très nostalgique au beau milieu d'un album. Et c'est aussi l'une des caractéristiques de la valse. Elle n'est pas qu'entraînante, elle n'est pas que porteuse de trance, elle est aussi porteuse d'un fameux tempo à trois temps, comme nous disait tout à l'heure Claude Dufresne, le passé, le présent et le futur, qui raconte quelque chose de ce qui est perdu, de ce qui survit. Vie. Et ça, évidemment, cet aspect-là de la valse, il est utilisé dès le milieu du XXe siècle, à l'époque où on utilise la valse comme la valse Mulsette, comme une musique très dansante. Certaines chanteuses réalistes, comme Edith Piaf, l'ont bien compris déjà.
Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux refermés vers d'autres matins, remplis de soleil. On les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir refermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça me fait mal, que ça me fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il y a toujours dehors la chambre à louer.
Dans la chanson française, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'airs très connus mondialement qui sont sur des valses musettes. Enfin, des valses, pas forcément musettes, mais des rythmes de valses. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. Il y a déjà le rythme. Ce rythme est assez envoûtant. En plus, il s'avère que quand on écoute toutes ces chansons, souvent elles sont en mineur. Il y a un passage en mineur. Souvent, le thème est triste aussi. C'est quelque chose de perdu, quelque chose d'oublié, soit une femme, soit un moment. Et je pense que le tout, le mineur se prête formidablement bien à la valse. Alors que dans d'autres airs, dans du binaire, le mineur est plus distant. Je trouve qu'il est moins ancré. Je pense que c'est une invention fabuleuse, la valse. C'est vraiment une invention. Liée à quoi, je ne sais pas, mais le fait que un air de valse, il est vrai que des gens qui ne connaissent pas la musique, comme des gens faisaient de la prose sans le savoir, font des valses sans le savoir, plus ou moins bien construites, mais comme diraient les accordéonistes qui ne notent pas la musique, on peut entendre poum tcha tcha, poum tcha tcha, c'est-à-dire que le rythme de la valse est là, et c'est un rythme qui avance bien, qui marche bien, qui tourne bien, et on a envie d'y mettre des paroles. Thank you.
Nude, un chef-d'œuvre encore un du merveilleux groupe Radiohead. Étrange histoire que celle de cette chanson qui est en réalité une valse, vous l'aurez entendu. Valse sortie sur leur album Rainbow en 2007, mais la chanson avait été en fait écrite 10 ans plus tôt, à l'époque de l'un des albums qui est les plus importants, sans doute du XXe siècle, c'est-à-dire OK Computer, chanson qui n'avait pas trouvé sa place sur cet album et que les fans du groupe s'échangeaient sous le manteau pendant 10 ans jusqu'à ce que le groupe décide de la faire paraître de manière gratuite hein, en 2007 dans cet album Rainbow Nude qui peut s'inscrire dans une très très longue tradition de valse triste. Hein. On a évidemment des morceaux instrumentaux parfaits. Je vous recommande vivement celle de Vexay, mais on peut aussi trouver des valses tristes dans le rock à peu près partout. Lonely Days de System of a Down, Nothing Else Matters de Metallica, et aussi beaucoup plus proche de nous dans les chansons qui ont marqué l'histoire très récente, celle du tournant des années 2010, avec une figure extrêmement importante de la pop culture d'aujourd'hui qui a fait pas moins de 3 valses dans son court répertoire alors qu'elle n'a que 25 ans. Elle s'appelle Billie Eilish. L'un de ses premiers tubes, When the Party's Over, était déjà une valse. L'un de ses autres tubes, I Don't Wanna Be You Anymore, repose aussi toujours sur ce 3-4. Vous allez voir, c'est plus difficile à identifier, mais il est vraiment là, cette matrice rythmique de la valse.
Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. Like it like, say I like it like that, like it like that. Like it like, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? I'll only hurt you if you let me. Call me friend, but keep me closer.
Call me back,
and I'll call you when the party's over. Quiet when I'm coming home. Say I like it like that, like it like that. Yeah, I could lie, say I like it like that, like it like that. But nothing is better sometimes. Once we've both said our goodbyes, let's just let
le génie de Billie Eilish et de son frère qui est à la composition dans cette valse triste qui est bien une valse si vous comptez 1, 2, 3, vous pouvez la réécouter, c'est clair comme de l'eau de roche. Vous l'avez compris, cette cellule rythmique de la valse, elle est omniprésente partout, évidemment dans le grand répertoire classique, dans le répertoire populaire, dans celui de la musique pop, y compris dans le rock qui pourtant est la musique binaire par excellence. Il est évidemment un groupe qui est à l'origine de tout ce que on peut écouter aujourd'hui, ce sont les Beatles. Eux ont beaucoup fait usage du rythme de la valse dans tous ses aspects. Par exemple, ici, une valse triste ou tout du moins langoureuse. Long, long, long.
It's been a long, long, long time.
valse triste, valse langoureuse, extrêmement bien exprimée ici, mais aussi la valse comme potentiel instrument de folie. En tout cas, on joue sur l'effet entraînant de la valse dans l'un des plus grands morceaux des Beatles, Lucy in the Sky with a Diamond, élégie au LSD, qui comporte deux matrices rythmiques, une binaire où on est très excité, une ternaire, un rythme de valse qui nous laisse partir dans la folie de la drogue.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Le refrain en binaire de Lucy in the Sky with Diamond en opposition avec le rythme de la valse qui marque les couplets. Vous entendez bien que le sentiment d'étrangeté qui naît de cette chanson, il est justement lié à cette alternance entre les deux cellules rythmiques. Autre exemple où les Beatles utilisent justement l'irruption de la valse pour dire quelque chose, pour rompre le propos, dans We Can Work It Out, chanson très positive, écrite par notre cher ami Paul McCartney, mais dont le refrain a été imaginé par John Lennon, beaucoup plus pessimiste, et c'est dans le rythme de valse qui s'impose à la toute fin du refrain qu'existe justement cette ambiguïté entre pessimisme et optimisme, entre les deux voix des deux compositeurs de cette chanson.
You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
Comment ne pas refermer encore une émission sur les Beatles, ces brillants génies de la musique pop du XXe siècle qui, à eux seuls, illustrent tous les moyens possibles, tous les ressorts qui existent dans cette cellule rythmique de la valse qui, vous l'aurez compris, est loin d'avoir disparu de nos oreilles. J'espère que vous prendrez le temps d'essayer d'écouter et de la reconnaître. Merci d'avoir suivi cette émission qui a été préparée avec le concours de Lou Quevauvillier, mais aussi avec celui de la discothèque de Radio France qu'on salue pour son soutien. Émission réalisée par Emmanuel Benito encore aujourd'hui et mise en onde, mixée par l'immense Jean-Guilain Mège, émission que vous retrouvez bien sûr sur l'application et le site de Radio France.